Voilà, donc Philippe Portier vient nous parler plus particulièrement de la réception de la théorie de l'évolution, c'est-à-dire la manière dont cette théorie a été rejetée, acceptée depuis évidemment le temps où elle a été élaborée jusqu'à aujourd'hui. C'est une situation assez complexe, plus particulièrement encore une fois dans le cadre de l'Église catholique romaine. Voilà, donc Philippe Portier est politiste, sa direction d'études à l'EPHE porte sur histoire et sociologie des laïcités. Et je crois que j'ai presque tout dit. Je vais ajouter simplement une chose, c'est qu'il y a un livre qui s'appelle « Théorie de l'évolution et religion » qui est sous la direction de Philippe Portier, Michel Veuil et Jean-Paul Willem, que vous connaissez, pour la plupart d'entre vous. C'est intéressant parce que ce livre a été la conséquence d'une collaboration qui n'est pas toujours évidente à mener à l'École pratique des hautes études, car vous le savez, l'École pratique des hautes études, il y a une section des sciences dites historiques et philologiques, des sciences religieuses, mais aussi des sciences de la vie et de la terre. Et c'est des grands spécialistes du Corat, etc. Et donc, il n'y a pas toujours l'occasion de travailler ensemble. Et bien là, on a réussi à travailler ensemble, c'est-à-dire à la fois les biologistes, les historiens, les philosophes, les anthropologues, les politistes, sur cette question de la théorie de l'évolution et religion. Voilà, et donc je fais passer ce livre, si vous voulez le regarder. Il aborde vraiment beaucoup d'aspects. Voilà. Très bien, Philippe, tu as la parole.
Bien, merci beaucoup, mon cher Philippe. Je vais donc évoquer avec vous la question de l'évolution telle qu'elle a été perçue par l'Église catholique romaine, en effet. Alors je voudrais tout d'abord préciser que le XIXe siècle prolonge dans l'ordre des sciences naturelles ce qu'avait introduit déjà le XVIIIe siècle avec Diderot, Rousseau, D'Alembert dans l'ordre des sciences politiques. Le XIXe siècle vient, comme l'avait fait déjà le XVIIIe, déconstruire l'intelligence sacrale du monde sur laquelle s'était appuyée depuis des centaines et des centaines d'années la civilisation occidentale. La théorie de Darwin est l'un des instruments de cette déconstruction. Théorie de Darwin, telle qu'elle est énoncée dans son livre fameux « L'origine des espèces » qui date, je le rappelle, de 1859, ou encore, et peut-être plus encore, dans un ouvrage moins connu, datant de 1871, « La descendance de l'homme ». Alors, cette théorie darwinienne vient défaire l'intelligence traditionnelle du monde à trois niveaux, en déconstruisant, au fond, trois grands socles narratifs sur lesquels nous nous étions jusqu'alors appuyés. La théorie darwinienne remet en cause, tout d'abord, l'idée même de création. La tradition chrétienne, jusqu'alors, tenait que l'univers avait été porté soudainement à l'existence d'une seule pièce par la toute-puissance de Dieu. L'homme avait fait l'objet, dans ce processus de création, d'une création spéciale qui le distanciait des autres créatures. Darwin rend très improbable ce qu'on appelle le récit de l'hexaméron, cette idée que le monde aurait été créé en 6 jours de 24 heures. De son point de vue, il prolonge de ce point de vue Lamarck, avec son idée de complexification des espèces vivantes, la nature s'est constituée de manière progressive. Et il suggère, notamment dans La descendance de l'homme, l'ouvrage de 1871, que l'humain, au sein de cette création, n'est guère plus que le prolongement fortuit d'une espèce animale antérieurement constituée. On voit par là que le thème même fondateur de la civilisation chrétienne, en tout cas à l'époque, de création spéciale de l'humain, se trouve mis à la question. Idée de création remise en cause, idée aussi de finalité interrogée, questionnée. L'ancien monde est marqué par la physique aristotélicienne. L'univers est un cosmos. Chaque être, en son sein, se trouve à sa juste place dans un environnement parfaitement ordonné. C'est saint Thomas d'Aquin qui disait, lui qui a fondé l'intelligence catholique du monde, que rien ne se fait sans but ni projet dans l'univers. Rien ne se fait sans but ni projet dans l'univers, or c'est précisément ce que Darwin vient remettre en cause. Il propose, quant à lui, une toute autre vision des choses qui se rit de l'argument téléologique, qui estime que le hasard est au centre, finalement, du système mondain. Tout ce qui est, dit-il, est le produit d'une histoire erratique et non pas, comme le croient alors les catholiques, comme le croient toujours les catholiques, je le dirai tout à l'heure, le produit d'un plan prédéterminé d'organisation où le vivant procède de la conjonction inattendue, des variations aléatoires et de la sélection naturelle. Point de plan organisé des choses, non. Une sorte de cheminement erratique de l'histoire. La sélection naturelle, à un moment donné, a croisé les variations aléatoires des espèces. Idée de création remise en cause, idée de finalité questionnée, il est un troisième motif, plus théologique encore, qui se trouve mis à la question. C'est l'idée de chute. L'idée de chute est celle qui l'accompagne, évidemment, de péché originel. La pensée chrétienne a son point d'ancrage dans la doctrine du péché d'Adam. Péché d'Adam qui se trouve transmis de génération en génération et que peut rédimer, que peut racheter seulement la médiation du Rédempteur, la médiation du Christ, à travers le truchement de son Église. Le discours de Darwin met tout cela en cause. Son discours évolutionniste rend fortement improbable l'idée d'un premier homme repérable comme tel et d'un foyer unique d'émergence de l'humain, ce qui entraîne un doute sur la possibilité d'un moment précis de la chute, un doute même sur la possibilité de son existence. On pourrait presque dire qu'avec son idée de complexification des espèces, Darwin inverse le processus. Le christianisme du temps, le christianisme romain, croit dans la chute de l'espèce humaine. Darwin, quant à lui, milite en faveur de la croyance d'une amélioration constante de l'humanité. Cette idée est d'ailleurs reprise, évoquée par Clémence Royer, qui est la traductrice de la première version de L'Origine des espèces, en 1859. La doctrine de Darwin, explique Clémence Royer, c'est la révélation rationnelle du progrès se posant en antagonisme logique avec la révélation irrationnelle de la chute. Le christianisme repose sur la croyance dans la chute. Darwin remet en cause cette croyance. Alors on voit bien qu'à travers ce questionnement de trois des idées fondamentales, de trois des socles narratifs essentiels de la civilisation chrétienne, l'idée de création, l'idée de finalité, l'idée de chute, l'Église catholique se trouve dans la nécessité de réagir. Dans l'urgence même de réagir. Mais comment réagir? Comment réagir face à ce discours qui prolonge les théories artificialistes sur le plan politique du XVIIIe siècle? Faut-il abdiquer devant cette modernité qui remet en cause de toutes parts et l'ordre politique et l'ordre naturel? Alors l'Église, conformément à son habitude, va, en un siècle et demi, poser un certain nombre de barrages, un certain nombre d'obstacles à l'expansion de cette thèse qu'elle analyse volontiers comme une thèse matérialiste. Simplement, ces obstacles qu'elle essaye de dresser face à l'expansion du darwinisme, ont avec le temps un peu évolué. On peut repérer, au cours du siècle et demi qui vient de se dérouler, deux stratégies successives de la part du catholicisme romain. Dans un premier temps, qui nous mène en gros jusque dans les années 1940-1950, l'Église catholique romaine adopte une stratégie de la résistance active, ouverte vis-à-vis du darwinisme. Pas de négociation avec le schéma darwinien du monde. D'autant moins de négociation avec ce schéma darwinien du monde qu'il est au principe, d'ailleurs, de nombre des récits, de nombre des discours du monde communiste qui s'appuie alors sur l'origine des espèces pour défendre sa théorie matérialiste de l'univers. Cette doctrine, cette stratégie de la résistance va bientôt être dépassée par un autre comportement. Par un autre comportement qu'on voit émerger dès le pontificat de Pie XII dans les années 1950 et qui va trouver une sorte d'expansion naturelle sous le règne pontifical de Jean-Paul, de lui-même prolongé par Benoît XVI. À la stratégie de la résistance ouverte va succéder, à partir de cette époque, une stratégie de l'accommodement relatif. Alors que le créationnisme, porté en particulier, pas exclusivement, mais porté en particulier par le fondamentalisme protestant, retrouve dans les années 1970 une nouvelle vigueur, on voit l'Église catholique accepter de faire sien les nouveaux savoirs. Le darwinisme n'est plus en situation d'extériorité par rapport au récit romain, il se trouve désormais intégré par le locuteur pontifical. Mais c'est un darwinisme évidé de sa substance immanentiste. C'est un darwinisme dont l'Église estime qu'il peut être en connivence avec certains des principes de la doctrine chrétienne. C'est donc autour de ces deux points, la stratégie de résistance ouverte, la stratégie d'accommodement relatif, que je voudrais essayer de vous présenter cette longue histoire du rapport de l'Église avec la science naturelle. Commençons, si vous voulez, par la stratégie d'opposition, par la stratégie de résistance. Retenons d'abord que Darwin n'a pas été condamné explicitement par l'Église. Ses ouvrages n'ont pas, on aurait pu s'y attendre, n'ont pas été mis à l'index. Ils n'ont pas été mis à l'index probablement pour deux raisons. La première raison, c'est que Darwin n'appartient pas à la communion catholique. Il est membre, vous le savez peut-être, de l'Église anglicane et connaîtra un parcours de détachement vis-à-vis de la foi tout au long de son existence qui le conduira vers un agnosticisme discret. Le second élément qui peut expliquer que les livres de Darwin n'aient pas été mis à l'index tient peut-être au fait qu'il se garde bien d'entrer sur le terrain propre de la théologie. Il essaye, dans ses ouvrages, de toujours conserver une neutralité scientifique en déclarant avec force que son principe d'analyse du monde naturel n'est pas nécessairement contradictoire avec la croyance dans un Dieu créateur. Alors, les livres de Darwin ne sont pas mis à l'index, bien sûr. Pour autant, l'Église catholique, jusqu'aux années 1950, ne fait preuve d'aucune faiblesse vis-à-vis des thèses transformistes. On voit que le discours de l'Église, que la pratique de l'Église, s'organise alors, dans le cadre de cette stratégie globale de résistance très active, autour d'une double réaction. Il y a d'abord une réaction intellectuelle, une réaction théorique. L'Église développe une thèse concordiste du rapport entre la science et la religion. L'idée est très simple, dans l'explication des phénomènes naturels, dans l'explication de la vie, tout doit être en conformité avec le récit biblique tel que le magistère l'interprète. Subordination, donc, de la science au récit religieux. S'ajoute à cette réaction intellectuelle une réaction disciplinaire. Ce siècle est celui, en tout cas ce premier XXe siècle, est celui, certains d'entre nous s'en souviennent peut-être, de l'Église intransigeante, de l'Église qui ne transige pas avec la modernité et qui punit même à l'intérieur de ses rangs ceux qui auraient le front de vouloir réconcilier le catholicisme avec le monde moderne. Nous sommes encore sous le coup du syllabus de 1864, suivant lequel le pontife romain, c'est-à-dire l'Église que le pontife incarne, ne pourra jamais se réconcilier ni avec le progrès, ni avec la liberté, ni avec la civilisation moderne. Marc Sangnier le paiera d'une condamnation en 1910, Pie X, lettre sur le sillon, mais l'on verra d'autres chrétiens, d'autres catholiques, le payer également par des interdits pesants sur les ouvrages qu'ils essaieront de publier. Je pense en particulier à Teilhard de Chardin, dont je vous dirai tout à l'heure peut-être un mot, et qui est condamné dès les années 1920 pour avoir essayé de faire une trouée à l'intérieur du catholicisme vers un darwinisme que décidément Le pontife de l'époque, il s'agit pourtant de Pie XI, qu'on présente comme un pontife ouvert, n'est pas encore prêt d'accepter. Voilà donc les deux points, me semble-t-il, qui caractérisent ce premier moment, ce moment de résistance active à la théorie transformiste du monde naturel. Ouvrons d'emblée par le premier dossier, la résistance intellectuelle. Alors, comme il arrive souvent à l'époque, ce sont les évêques qui interviennent en premier lieu. Dès les années 1860, le livre de Darwin, L'origine des espèces, vient à peine de sortir. On voit déjà des évêques, j'en parlerai tout à l'heure, anglais, des évêques allemands surtout, et des évêques français prendre la parole sur ce terrain. Ils seront bientôt suivis par le pape. Dans les années 1890, le pape Léon XIII, et puis ensuite, Pidis ira encore plus loin que son prédécesseur sur la voie de la condamnation. Alors, ces évêques, ces papes, se retrouvent autour de la même thématique que je vais essayer de vous expliciter. Ils remettent en cause le principe suivant lequel les êtres humains auraient, pour père et mère, un singe et une guenon. Cette expression est empruntée à l'un des évêques de l'époque qui prend la parole, qui sera d'ailleurs en consonance avec un évêque anglican, Wilberforce, qui ira dans le même sens. On ne peut pas concevoir que l'humain puisse descendre du singe. C'est le grand thème de ce moment que l'Église, évidemment, va tenter, dans une multiplicité de textes, de théoriser. Alors cette théorisation, elle repose sur un double discours. Il y a d'abord un discours que j'appellerai ici volontiers fondationnel. Il s'agit de penser le rapport de l'écriture à la science. Comment essayer d'articuler ces deux univers de sens? Comment essayer d'articuler ces deux univers de sens, la science et l'écriture? Tout simplement en produisant un discours qu'on appelle en théologie un discours de type concordiste, suivant lequel le récit scientifique ne peut être valide qu'à partir du moment où il colle en tout point avec le discours religieux. Ce point est évoqué par le pape Léon XIII, dont on dit pourtant qu'il est un pape libéral et ouvert à la modernité, dans une encyclique de 1893 qui porte le titre suivant, Deus Providentissimus. Deus Providentissimus, qui annonce des textes nettement plus agressifs encore, ceux de Pidis, au moment de la crise moderniste, avec en particulier l'encyclique Pascendi, elle-même suivie par le décret bien connu Lamentabili. Deux textes, Pascendi et Lamentabili, promulgués en 1907. Alors, ces textes, l'encyclique de Léon XIII, Deus Providentissimus, et puis l'encyclique Pascendi, elle-même suivie par le décret Lamentabili, on voit qu'il y a une véritable mobilisation scripturale de la part de l'Église sur ces terrains, contiennent deux grandes idées. Il y a d'abord une idée essentielle, c'est l'inhérence du récit biblique. Alors il ne s'agit certes pas, dans l'univers catholique, de valider, comme il arrive alors à l'époque dans le monde protestant, dans certaines fractions du monde protestant, de valider les approches littérales de la Bible. L'Église se défie du littéralisme en la matière. On ne peut pas prendre le texte biblique à sa valeur immédiate, à sa valeur faciale. Pour deux raisons que développe le pape ou les papes de l'époque. Le premier élément, c'est que si l'on prend le texte biblique à sa valeur littérale, on érige le lecteur de la Bible en herméneute souverain. Celui qui lit la Bible y repère un sens immédiatement donné. C'est aller à l'encontre de la médiation nécessaire de la hiérarchie, de la médiation nécessaire du magistère dans l'appréhension du récit biblique. Et puis, il y a un deuxième élément qui, du point de vue théologique, est extrêmement intéressant, c'est que nos papes et nos évêques, à leur suite, estiment que la théologie catholique n'a jamais été fondée sur l'idée que la Bible pourrait révéler uniquement son sens à travers la littéralité de ses propos. Il y a une théologie à l'époque, très importante, mais qu'on retrouvera dans les textes ultérieurs, qui est la théologie des quatre sens de la Bible, reposant sur les travaux initiaux, sur les théologies initiales d'Origène et de saint Augustin. Cette théologie des quatre sens de la Bible interdit de réduire la Bible à son seul sens littéral. La Bible comporte d'autres trames sémantiques qu'il revient au magistère de décrypter. Quatre sens et non pas un. Le sens littéral est sans doute une des possibilités du contenu de la Bible. Ce n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Il existe d'autres sens qu'il convient également de mettre en évidence, le sens allégorique, le sens moral, le sens anagogique, que le magistère seul a la possibilité de décrypter. On voit donc que la Bible ne se donne pas immédiatement. Elle a besoin de la médiation du magistère pour révéler ses contenus subtils. Le problème est de savoir comment le magistère lui-même, s'étant ainsi détaché du littéralisme biblique, envisage le texte saint. Que lit le magistère dans la Genèse? C'est très simple, le magistère dans la Genèse lit que le monde a été créé en 6 jours de 24 heures. Sans doute refuse-t-on le littéralisme du point de vue théorique, mais du point de vue pratique, lorsqu'il s'agit d'interpréter le texte en question, on retrouve finalement un schéma de véridicité ou d'inhérence du texte biblique. Le texte biblique raconte, à travers ses énoncés, ce qui s'est réellement passé. Je vous lis ici une phrase de Léon XIII, tout à fait significative de ce point de vue. « Certains regardent les livres saints non comme contenant le récit exact des événements réels, mais comme des fables ineptes ou des histoires mensongères. Le magistère proclame au contraire que les livres de l'Ancien Testament, et en particulier les livres de la Genèse, avec toutes leurs parties, doivent être reconnus comme sacrés et canoniques. » Il y a là, vous le voyez, alors même que sur le plan de la posture exégétique, le magistère refuse le littéralisme, l'intégration dans le discours magistériel de la littéralité des livres de la Genèse. On dit qu'on ne prend pas le livre de la Genèse à sa valeur immédiate, et pourtant, c'est à ce résultat qu'arrive l'exégèse subtile à laquelle se livre le discours magistériel. Alors, ayant rappelé que le récit biblique est un récit inhérent, le magistère en vient parallèlement, et on est toujours dans la fondation du discours scientifique de l'Église catholique, à refuser l'autonomie du discours scientifique. Bien sûr, il n'y a pas à l'époque de remise en cause de la recherche scientifique, et l'on voit Léon XIII et même Pilis encourager la création, un peu partout en Europe, de chaires d'études scientifiques. On les voit même mobiliser les chrétiens dans le cadre de congrès scientifiques où il s'agit d'interroger le progrès de la science. Dans Lamentabili, Pilis condamne d'ailleurs la proposition moderniste selon laquelle l'Église se montrerait hostile au progrès des sciences naturelles et théologiques. Non, l'Église est manifestement du côté de la science, mais c'est une science qui s'exerce sous condition. Quelle est cette condition? Léon XIII et Pilis rappellent toujours la même ancienne. Ils estiment que le savoir ne s'affirme pas, ne peut pas s'affirmer, dans l'indépendance par rapport à la lecture du livre saint proposé par le magistère. Les sciences humaines, disent les papes, ne doivent à aucun cas contredire les vérités révélées. Ils doivent, ou elles doivent au contraire, ces sciences humaines, soutenir les vérités révélées. Et l'on a là le noyau dur de la posture concordiste que j'évoquais tout à l'heure. La connaissance des faits naturels ne doit pas être contraire à l'affirmation des vérités de foi. Au contraire, les sciences naturelles doivent venir servir de support à l'énoncé des vérités de foi. Intégration donc du discours scientifique dans un discours religieux qui le détermine de toutes parts. Muni de ce discours épistémologique, de ce discours de la connaissance, les évêques, les papes, vont ensuite, toujours dans ce récit intellectuel qu'ils élaborent, venir évaluer le schéma darwinien lui-même. Que faut-il en penser? Alors, la science positiviste, ou la philosophie positiviste du XIXe siècle, fin du XIXe, estime que le darwinisme est une véritable conquête de la liberté humaine qui permet de se défaire des arrière-mondes, qui permet de se défaire de l'illusion du discours religieux. On ne s'étonne pas que le discours catholique tienne, évidemment, un point de vue totalement différent. Pour le discours catholique, épiscopal, pontifical, le darwinisme est une atteinte insupportable à l'ordre concordiste qu'il vient de définir. Avec le transformisme, rien ne demeure, nous disent les papes, ni de la grande économie de la Genèse, ni de la puissance de Dieu, ni surtout de cette idée que le monde est naturellement corrompu lorsqu'il n'a pas encore reçu la rédemption de la parole divine. Au niveau épiscopal, la riposte vient essentiellement de deux pays, d'Allemagne et de France. Rien de bien étonnant à tout cela, ce sont deux pays qui ont été probablement plus que les autres marqués à l'époque par la radicalité du combat anticatholique. Kulturkampf en Allemagne, mobilisation anticléricale autour du principe de laïcité dans la France de la Troisième République. Alors on voit que de ces régions-là, que de ces pays-là, émane un discours en tout critique de la doctrine de l'auteur de l'évolution de l'origine des espèces. Le Concile de Cologne, en 1860, réunit les évêques allemands. Et lors de ce discours de Cologne, 1860, un an après la sortie, après la publication de l'origine des espèces, ces évêques disent qu'il n'est rien en l'homme qui ne soit le produit d'une création soudaine émanée de Dieu, pas même son enveloppe corporelle. Dieu nous a créé toute pièce. Il nous a inscrit dans l'univers, âme et corps réunis. Voilà la phrase centrale du texte du Concile de Cologne sur cette question. Nos premiers parents ont été créés immédiatement par Dieu. C'est pourquoi nous déclarons, tout à fait contraire à l'Écriture sainte et à la foi, l'opinion de ceux qui n'ont pas honte d'affirmer que l'homme, quant à son corps, est le fruit de la transformation spontanée d'une nature imparfaite en une autre de plus en plus parfaite. Alors, ce qui est ici extrêmement important, c'est l'idée que le corps même de l'homme a été créé soudainement, immédiatement par Dieu. On verra que avec Pie XII, dans les années 1950, Paul VI, Jean-Paul II, ce thème-là disparaîtra. Et l'on verra l'Église accepter que le corps de l'homme ait pu être le produit d'une sélection naturelle. Il restera, j'en parlerai un petit peu plus loin, toujours un point qui échappera à cette sélection naturelle, c'est la production de l'esprit ou de l'âme même des hommes. En tout cas, ce discours de Cologne est tout à fait significatif par le sort particulier qu'il accorde à la notion de corps. Le corps lui-même est le produit d'une création soudaine, et non pas, comme le veut Darwin, le produit, le prolongement d'une conjonction de la sélection naturelle et de mutations aléatoires. Non, non, le corps est bien le fruit de la volonté immédiate de Dieu. Alors en France, ce sont des évêques aussi qui prennent la parole, et je pense en particulier à Monseigneur Maignan, évêque de Châlons, en 1869, il publie cet ouvrage, « Le monde et l'homme primitif de la Bible ». Et il a cette phrase, qui consonne avec celle des évêques allemands, « La Genèse comporte des données positives incontestables, et du coup, l'origine des espèces forme le contraire le plus net de l'anthropologie biblique. » On voit bien qu'on est dans l'opposition de deux principes. Le principe de Darwin, s'oppose ici au principe ou à l'intelligence du monde du catholicisme. Tout cela se trouve confirmé au niveau pontifical. Nous avons beaucoup de textes entre 1870 et 1910, et je pense en particulier à un texte tout à fait important qui fait le point de la doctrine catholique sur cette question. C'est un texte qui est lu à la Commission biblique et qui s'intitule « Le caractère historique des premiers chapitres de la Genèse ». Que penser du récit biblique de la création? C'est très simple. Les cardinaux, membres de cette commission biblique, estiment qu'il est possible de proposer, sur les questions laissées pendantes par la tradition, sur les questions que le magistère n'a pas abordées, une interprétation symbolique du livre saint. Comme je vous le disais tout à l'heure, théologie des quatre sens du livre saint, à côté de l'interprétation littérale, il existe d'autres possibles qu'il revient au magistère de porter à l'existence. La commission biblique va dans ce sens. On pourrait, en effet, analyser telle ou telle partie de la Bible à partir d'autres lunettes que des lunettes littéralistes. Il reste que ce n'est pas possible précisément pour ce qui a trait à la Genèse. Les livres de la Genèse doivent être pris, pensent les cardinaux de la commission biblique, à leur valeur immédiate. Ils disent la vérité des choses. Ils sont inhérents dans leur description du phénomène historique d'émergence de l'humain. Ce ne sont pas des constructions mythologiques qui sont présentées dans les premiers chapitres de la Genèse, des constructions mythologiques déliées de toute vérité objective, non ? Ces chapitres-là comportent des faits qui touchent au fondement même de la religion chrétienne et qu'on ne peut nullement abolir. Quels sont ces faits que rappelle la commission biblique ? Ils sont au nombre de trois. Tout d'abord, toute chose a été créée par Dieu au début des temps. Et on remet en cause ici le processus évolutif qui aurait conduit à partir de la sélection naturelle, à partir des variations du vivant, à l'émergence progressive de l'univers tel que nous le connaissons. Non, tout a été fixé dès l'origine, le partage actuel des ordres et des espèces était déjà là au début des temps, 4000 ans avant Jésus-Christ. Et puis il y a un second point qui apparaît au cœur même du texte de la commission biblique, nous sommes en 1909, c'est cette idée que l'homme a connu une création spéciale. Rien n'est plus faux que de dire que l'homme apparaîtrait comme le prolongement, comme le surgeon d'une lignée animale déjà constituée. Non. À un moment donné, Dieu a bien porté à l'existence, parce que tel était son projet volontaire et conscient, un homme qui est apparu d'une pièce et dont l'aspect, la nature, la substance ne sont pas différents de ceux qu'on peut percevoir dans l'homme immédiatement contemporain. Et puis il y a un troisième point qui est aussi au cœur de ce texte de la commission biblique, c'est cette idée que le péché originel s'est transmis de génération en génération après la faute de nos premiers parents et que du coup on ne peut pas admettre ce darwinisme qui ne repère pas dans l'histoire humaine le point d'émergence de cet homme qui aurait fauté. Voilà la doctrine fixée, et qui semble en effet fixée définitivement, remettant en cause les principes les plus sûrs de la science naturelle qui se constitue autour du paradigme évolutionniste. Premier élément, on le voit bien, une réaction intellectuelle. L'Église ne demeure pas inerte devant la montée en puissance de ce discours scientifique qui lui semble remettre en cause l'essentiel de ses fondamentaux. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de l'Église, qui est un appareil sans doute contrôlant ses troupes, mais qui est un champ aussi, avec des positions différentes, c'est qu'à l'intérieur de l'Église se manifestent des hétérodoxies. Et qu'on va voir, contre ces discours assurés, assurés par les évêques et assurés par les papes, un certain nombre de chrétiens tenir un discours qui les met en connivence avec la pensée darwinienne. Tous les travaux ne sont pas visés. L'Église choisit certaines cibles, et l'on trouve, à la fin du XIXe siècle, et encore au début du XXe siècle, des scientifiques d'origine catholique, souvent de grands catholiques, comme on dit sous la Troisième République, qui tiennent un discours qui les place en connivence avec le schéma darwinien. Peut-être certains d'entre vous se souviennent-ils des noms d'Albert de Laparent, de Gaston de Saporta ou d'Albert Gaudry. Certains d'entre vous se souviennent aussi peut-être du père Henri de Breuil ou des abbés préhistoriens Amédée et Jean Buissonnier. Ceux-là, dans leurs analyses, voient bien que le discours de la création immédiate ne colle pas avec les plus récentes découvertes historiques. Cela voit bien que l'homme n'est probablement pas apparu d'une pièce et qu'on arrive à suivre, dans la chaîne du vivant, différentes étapes de constitution du corps, en tout cas, de l'humain. Cela continue de travailler dans une relative liberté. Bien sûr, ils ne sont pas tout à fait en odeur de sainteté, mais soutenus par les organes du catholicisme libéral et en particulier par le correspondant, ils arrivent à mener de manière discrète l'activité de scientifique de la Troisième République. Est-ce à dire que l'Église laisse faire? Non, elle ne laisse pas faire et on va la voir condamnée, et souvent avec force. Des intellectuels, des théologiens, le plus souvent, qui reprennent à leur compte le paradigme darwinien. Alors, une question se pose. Pourquoi eux, ceux dont je vais parler maintenant, et pourquoi pas les autres? Parce que ceux dont je vais parler maintenant présentent deux caractères que les autres n'ont pas, ou presque pas. Le premier caractère, c'est que l'Église, à l'époque, nous sommes dans les années 1890-1920, vous allez le voir, vise principalement les clercs. Elle est dans une conception très, très hiérarchique du modèle catholique, suivant lequel ce qu'on peut permettre aux laïcs, on ne peut pas le permettre aux clercs. Vous vous souvenez de la fameuse définition de l'Église par le pape Pie X, une armée en ordre de bataille dirigée par les prêtres. Et on voit que si le prêtre s'éloigne du discours de l'Église, il remet en cause cette acies bene ordinata, cette armée bien ordonnée que les papes Léon XIII ou Pie X souhaitent porter maintenant à l'existence. Un clerc qui trahit, dans ce schéma hiérocratique, c'est plus grave qu'un laïc qui s'éloigne de l'orthodoxie. Et puis il y a un deuxième point qui explique que les auteurs dont je vais parler maintenant se trouvent condamnés, c'est le fait qu'ils ne s'en tiennent pas à un discours strictement catholique. Ils sortent de la neutralité scientifique pour oser, dans des textes mi-scientifiques, mi-théologiques, remettre en cause les principes fondateurs, en tout cas ceux que l'Église décrit comme tels, de la foi chrétienne. Leur discours part de la science, mais échoue très souvent sur une déconstruction théologique du monde catholique. Ce pourquoi l'Église romaine, à l'époque, ne peut pas laisser passer ces dissidences, ces hétérodoxies, qui viennent questionner son propre mode d'appréhension du monde. Deux dossiers importants méritent ici peut-être d'être signalés. Il y a d'une part le dossier d'un père dominicain. Les dominicains seront, vous le savez, au XXe siècle, souvent portés vers une position de réconciliation entre la modernité et le catholicisme. C'est d'une certaine manière l'une des premières étapes que cette condamnation du père dominicain Dalmas le Roi. Il fait partie d'un courant qu'on appelle alors le courant de l'évolutionnisme spiritualiste, un courant qui se trouve défendu par le recteur de l'Institut catholique de Paris, qui s'appelle Monseigneur Dulst, et porté par cette fraction minoritaire du catholicisme qu'on appelle le catholicisme libéral, qui trouve dans la revue Le Correspondant son organe de diffusion. Alors, le père Leroy, Dalmas Leroy, qui est un scientifique, mais qui va franchir la frontière de la science pour aller du côté de la théologie, publie en 1887 un ouvrage qui consonne avec le titre même du livre de Darwin, « L'évolution des espèces organiques ». Et le roi, Dalmas le roi, à une époque où Darwin sent déjà le souffle, ose dire, dans ce livre, qu'il n'est pas de doctrine mieux faite que celle de Darwin pour satisfaire l'intelligence. Et il va même, à une époque où Galilée n'est pas encore réhabilité, cela viendra avec Pie XII, un peu avec Jean-Paul II, beaucoup, il va même jusqu'à oser une comparaison avec Galilée, disant, de même que l'on s'est aperçu en dehors de l'Église que Galilée avait raison, la vérité autour de Darwin finira par se faire jour. Ça fait beaucoup d'autant que notre auteur estime que s'il y a une validité évidente du transformisme pour ce qui a trait aux espèces végétales et aux espèces animales, une transformation au fil de l'histoire, cette validité pourrait valoir aussi pour l'homme même. Il est possible que le constat darwinien, dit Dalmas le roi, vaille aussi pour les êtres humains eux-mêmes. L'homme pourrait dériver de l'animalité, mais rien ne prouve qu'il en a été ainsi. Ce que retiennent les censeurs, c'est cette formule. L'homme pourrait bien dériver de l'animalité. Alors, Dalmas le roi vient fonder cette idée autour de deux arguments dont vous allez voir qu'ils sortent très largement du seul champ scientifique. L'apparence apporta, père de Breuil, n'avait pas eu cette témérité. Dalmas le roi n'hésite pas. Il revient d'abord sur le récit de la Genèse. Il explique que ce récit de la Genèse n'a rien d'inhérent, rien de véridique. Dalmas le roi nous dit qu'il faut prendre en compte le style poétique d'un chant primitif et qu'on a trop figé dans l'histoire de l'Église la signification de cette Genèse dans une interprétation purement littérale. Il faut adopter une attitude plus distanciée. Il faut voir le récit biblique comme un récit de la figuration mythologique. Bien sûr, des choses essentielles sur l'histoire du monde se disent, mais des choses symboliques. Le réel est ailleurs et c'est à la science de le percevoir. Il va même plus loin en convoquant la théologie de saint Augustin et en disant que chez saint Augustin lui-même, il existe la possibilité d'une création continuée de l'univers. Il reprend les textes de saint Augustin et nous dit que pour saint Augustin, le monde n'est pas nécessairement le produit d'un fiat unique, soudain, immédiat, mais que le monde est advenu à la suite d'une série de mutations successives dirigées par Dieu même. Et l'on voit par là s'établir la possibilité d'une connivence entre le discours darwinien et le discours théologique fondé ici sur son premier docteur, saint Augustin lui-même. Deuxième argument développé par Dalmas le roi, et qui est un argument extrêmement hétérodoxe, pour l'époque en tout cas, il ne le sera plus à partir des années 1950-1960, c'est l'évaluation de l'action du Créateur. On dit souvent que le transformisme enlèverait à Dieu toute souveraineté sur l'univers. Si l'on estime que l'homme est le produit d'un hasard et d'une nécessité, finalement, quelle est la part de Dieu dans tout cela? C'est ce que disent les évêques de l'époque, c'est ce que disent les papes de l'époque. Le darwinisme enlève à Dieu la toute-puissance que la théologie, et au-delà l'écriture, lui attribue. La réponse de Dalmas le roi est celle-ci. Bien sûr, dans le schéma darwinien, il y a une dynamique des causes secondes qui l'emporte sur un premier moteur absolument créateur. Dynamique des causes secondes. Il y a eu des successions de mutations. Alors, les darwiniens pourraient dire, mais cette succession de mutations montre bien que Dieu lui-même ne maîtrise pas le processus qu'il a enclenché. Dalmas le roi objecte immédiatement, mais il faut un génie encore plus grand pour penser la succession des mutations. Et du coup, il réintègre dans l'analyse darwinienne la possibilité de la toute-puissance de Dieu. À travers cette succession de mutations que décrit le darwinisme, se révèle un Dieu encore plus puissant qu'on ne le croyait lorsqu'on pensait que ce Dieu d'une chiquenaude initiale avait porté le monde dans sa totalité à l'existence. On est là, à travers les thèses de Dalmas le roi, dans un discours qui préfigure déjà les positions magistérielles du deuxième XXe siècle. Nous verrons tout à l'heure que ce que je viens de vous décrire, à partir de la thèse de le roi, sera repris par les papes à partir des années 1950-1960. Mais à l'époque, le roi apparaît dans une hétérodoxie coupable qui amène Rome, nous sommes en 1895, sous le très libéral Léon XIII, amène Rome à le convoquer à Rome, à l'interdire de publication, à lui demander rétractation. Ce que fera le très obéissant Dalmas le roi, qui interrompra alors toutes ses recherches. Premier dossier. Il en est un second qui marque aussi l'époque, qui est le dossier de Teilhard de Chardin, qui a tellement marqué, vous vous en souvenez, dans les années 1950-1960, le courant peut-être le plus ouvert du catholicisme, ce qu'on appelle ordinairement le catholicisme d'ouverture. Nous sommes au début des années 1920. Alors on pourrait se dire, mais nous soufflons enfin à l'intérieur du catholicisme après le règne de Pie X et après l'interrègne de Benoît XV. Nous soufflons modérément. Pie XI ne revient pas sur la ligne de Pie X. Il revient d'autant moins sur la ligne de Pie X qu'il confie le Saint-Office, ce qu'on appelle aujourd'hui la Congrégation pour la doctrine de la foi, ce qui régule l'orthodoxie à l'intérieur de l'Église catholique, à l'ancien secrétaire d'État de Pie X, le cardinal espagnol Méry del Val, dont on sait le rôle qu'il a joué dans la condamnation de Marc Sangnier, par exemple, dans les années 1900-1910. Il se trouve que Teilhard de Chardin écrit un petit texte qu'il confie à quelques amis. Ce texte aurait dû rester secret. Ce texte écrit en 1922, s'appelle, de manière très significative, « Note sur quelques représentations possibles du péché originel ».« Note sur quelques représentations possibles du péché originel ». Vous vous souvenez que, tout à l'heure, j'ai indiqué que ce qui pouvait soucier le catholicisme dans le darwinisme, c'était qu'il remettait en cause le principe de la chute et du péché originel qui l'accompagne. Et on va voir que Teilhard de Chardin réfléchit à cette question, mais dans un sens qui est marqué par une dissidence hétérodoxe. Alors, il confie ce texte à quelques amis, mais comme il arrive souvent à l'époque, Émile Poulla a écrit de très belles pages sur cette question, il existe encore dans l'Église un climat de délation. Et ce texte va se retrouver aux grandes dames de Teilhard de Chardin, sur les bureaux du Saint-Office, qui aura, évidemment, à examiner le document et qui le fera sentir, je vais vous le dire tout de suite, auprès du Père Jésuite. Que dit ce texte ? Note sur quelques représentations possibles du péché originel. Trois choses. D'abord, il interroge le statut de l'homme. Peut-on croire, encore, aujourd'hui, après Darwin, à l'idée d'une création spéciale, d'une création soudaine de l'homme par la toute-puissance divine. Teilhard de Chardin met cette croyance-là en doute. Cette croyance qui est le fondement même du discours catholique de ce temps. Non. L'histoire nous dit Teilhard de Chardin, dans ce petit texte de 1922, a placé l'espèce humaine sur un pédoncule par lequel elle se rattache au tronc commun des vivants. Espèce humaine sur un pédoncule par lequel elle se rattache au tronc commun des vivants. Point de discontinuité dans le règne de la vie. La vie humaine se situe dans la continuité immédiate de la vie animale. Où est l'extraordinaire de l'homme ? Ailleurs, en tout cas, que dans son histoire naturelle. Dans le phénomène humain, ouvrage publié en 1955, Teilhard de Chardin ira dans le même sens, avec plus de clarté encore. L'homme n'est qu'un terme de plus dans la série des formes animales. Continuité de la vie. Alors que tout le discours de l'Église, en ce temps-là, repose sur le principe de discontinuité des règnes, de discontinuité des espèces. Deuxième élément très important, au cœur même de ce petit ouvrage de 1922, le statut du péché. Le problème de Darwin, c'est qu'en ne situant pas précisément le lieu d'émergence d'Adam et Ève, et même la possibilité de cette émergence, en voyant la concrétion, la naissance de l'homme comme le fruit d'un processus assez indéterminé, il rend impossible de fixer dans tel ou tel de nos ancêtres le péché qui va ensuite déterminer notre rapport à l'histoire. L'Église refuse cela. Teilhard de Chardin, 1922, en accepte l'augure. Il nous dit que s'il n'y a ni Adam ni Ève, comme le dit en effet Darwin, alors la chute, et je cite ici Teilhard de Chardin, la chute en tant qu'événement est inexpérimentable, est invérifiable. Et voici que s'effondre l'un des éléments du triptyque fondateur du catholicisme du temps, chute, Église médiatrice, salut. Le premier terme de ce triptyque s'efface sous la plume de Teilhard de Chardin. Et puis, il y est un troisième élément dans ce petit texte, quinzaine de pages, de 1922. Comme Darwin, Teilhard de Chardin embrasse l'idée d'une histoire linéaire qui nous permettrait de passer des formes rudimentaires de la vie et de la société aux formes plus complexes, plus achevées, plus civilisées. Le temps est pour lui un flux, un processus de croissance continue qui va nous permettre de passer de la vie à ce que Teilhard de Chardin appelle la survie, c'est-à-dire ce moment de l'accomplissement mystique où le monde viendra se fondre dans l'esprit du christianisme. Un moment de l'histoire qu'on perçoit dans notre horizon d'attente, le monde sera à ce point achevé qu'en lui, on pourra voir la réalisation suprême de l'idéal chrétien. Voilà aussi qui ne plaît pas à l'Église. Est-ce que cette histoire-là, qui est en train de se faire, peut être le lieu même de l'achèvement de l'humain ? N'y a-t-il pas, au-delà de l'histoire qui se fait, un autre ordre de réalité que le chrétien vise prioritairement, au-delà de l'histoire matérielle des hommes ? Et Teilhard sera, évidemment, pour cette raison-là, accusé d'historicisme en voulant rabattre sur notre plan historique l'idée d'un achèvement complet de nos existences, quand l'Église nous dit que c'est bien au-delà de l'histoire qu'il faut essayer de trouver la vérité de notre devenir. Alors, Pie XII, dans Humani Generis, en 1950, va fixer la critique sur Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin aura été interdit d'enseignement dès les années 1920. Mais la foudre de l'Église ne va cesser de s'abattre sur lui, tout simplement parce que, de livre en livre, à partir de cette conception du péché, de l'histoire, de l'humain, il remet en cause les fondamentaux de l'Église, jusqu'à Jean 23, au fond. On l'ignore trop souvent. Il y aura encore des condamnations de Teilhard de Chardin. Jusqu'à Jean 23, des condamnations de Teilhard de Chardin, pour la raison qu'explique Pie XII dans Humani Generis, cette grande encyclique sur laquelle je reviendrai peut-être tout à l'heure, de 1950. La théorie de Teilhard nous pose problème, d'une part parce qu'elle est saturée de panthéisme, avec une confusion constante entre Dieu et le cosmos. Comment, à travers l'achèvement du cosmos, se dirait la vérité de Dieu ? Il n'y a donc rien au-delà de la nature. Dieu, comme chez Spinoza, se confond avec la nature. Ce père jésuite, décidément, n'est pas dans l'orthodoxie. Et puis, il y a aussi, nous dit Pie XII, en 1950, encore, chez lui, un motif d'historicisme. Il estime que la vérité se construit dans l'histoire et par l'histoire. Teilhard de Chardin est celui qui pense que c'est dans l'histoire que les hommes s'accomplissent, comme s'il n'y avait pas une extra-histoire, un au-delà de l'histoire qui serait la promesse même de l'espérance chrétienne. Autant d'éléments qui, à partir d'une lecture du darwinisme, conduisent Teilhard de Chardin à se mettre à l'écart de l'orthodoxie romaine, ce que l'Église n'accepte pas, ce pourquoi elle proscrit ses œuvres et lui interdit même, à la fin des années 1940, de postuler sur une chaire que le Collège de France lui offre. C'est donc une première étape, ici, où l'on voit se mettre en place, contre la modernité scientifique, comme on avait vu l'Église au XVIIe siècle mettre en place des barrières à l'expansion de la modernité politique, c'est donc une première étape où l'on voit l'Église mettre en place une épistémologie, une conception particulière du rapport entre la foi et la science, qui débouche sur toute une série de mises au pas disciplinaires. On aurait tort de s'arrêter à ce moment-là de l'histoire. C'est un moment de résistance, probablement d'incompréhension de la modernité scientifique, qui va bientôt être dépassé dans les années 1950, et c'est sur ce point que je voudrais maintenant intervenir. Après la stratégie de résistance, quelques mots sur la stratégie d'accommodement. La stratégie d'accommodement, elle émerge au fond dès les années 1950. Il y a une phase de latence entre 1930 et 1950 où l'Église laisse beaucoup faire. Elle sent bien que le vent de l'histoire ne lui est pas favorable sur cette question et elle intervient peu. Et on la voit, par exemple, l'archevêque de Paris, ici, accordé son imprimatur et son ilobstat à des ouvrages de sciences de la vie, à des ouvrages de sciences naturelles qui évoquent la théorie darwinienne. On n'intervient plus. On sent que quelque chose a passé et que l'Église serait finalement mal inspirée de continuer dans cette stratégie d'opposition frontale à une science qui affirme de plus en plus sa validité, qui affirme de plus en plus sa légitimité. Les choses se préparent. Et on les voit germer réellement dans les années 1950, où se construit là une stratégie d'accommodement relatif au darwinisme. Alors, une question évidemment se pose. Pourquoi l'Église accepte-t-elle de changer sa stratégie ? Elle aurait pu continuer dans le même style de discours. Il faut ici probablement passer par un petit détour sociologique. Vous savez que en sociologie weberienne, on opère une distinction entre la secte et l'Église. Ce qui caractérise la secte, c'est qu'elle vomit les tièdes. Elle vomit les tièdes et met une sorte de barrière, opaque, hermétique, entre l'intérieur du groupe religieux et l'extérieur, le monde. Le monde n'a pas vocation à pénétrer l'Église et l'Église n'a pas vocation à passer compromis avec le monde. Rien de tel dans la forme Église, où s'élaborent là, où s'établissent là, des relations constantes entre le groupe religieux et l'extérieur du groupe religieux, le monde lui-même. Stratégie de compromis qui permet à l'institution de s'adapter et probablement de se pérenniser à travers les secousses de l'histoire. L'Église catholique est une Église, au sens sociologique du terme. Ce n'est pas une secte. Et constamment au cours de son histoire, elle a passé compromis avec le monde. Je vous parlais tout à l'heure du XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, on a oublié tout cela, l'Église réinvente son rapport au pouvoir politique, en remettant en cause la théorie du pouvoir indirect, du pouvoir direct des papes sur le pouvoir politique, et en lui substituant une autre théologie, qui est la théologie de la potestas indirecta, du pouvoir indirect sur les rois. Les choses sont totalement différentes de ce qu'elles pouvaient être au temps de Grégoire VII ou de Boniface VIII. Adaptation de l'Église à un monde politique qui affirme désormais sa souveraineté. Eh bien, on voit la même chose dans les années 1950. L'Église sent bien que le monde a évolué de telle sorte qu'elle ne peut plus, si elle veut subsister, si elle veut persévérer dans son être, maintenir le discours ancien qui est de toutes parts en dissonance avec les nouvelles exigences du temps. Exigences externes, on voit bien que le monde d'explication darwinienne devient un monde légitime, exigence interne de plus en plus, au sein des universités catholiques, au sein même de l'Académie pontificale des sciences qui a été créée par Pie XI, le paradigme darwinien devient le paradigme dominant. Tout cela peut contribuer, évidemment, à expliquer le changement de stratégie qui va se construire autour de deux points essentiels. Le premier point, c'est que l'Église admet désormais de consentir à la parole scientifique. Alors vous allez me dire, mais transformation absolue. On entre de plein pied dans une modernité scientifique qu'on rejetait hier encore. Ce n'est qu'un des éléments de cette stratégie d'accommodement. Il en est un second. Acceptation de la vérité scientifique à condition, cependant, qu'elle ne remette pas en cause la vérité religieuse. On est donc dans un cadre concordiste transformé, adouci, mais un cadre concordiste quand même, dont je voudrais, si vous le voulez bien, vous présenter les grandes déterminations. Commençons par l'adhésion à la parole scientifique. Alors, il y a deux moments clés, deux papes centraux dans cette histoire. Pie XII, qu'on a souvent tendance à assimiler à un pape réactionnaire, comme on a tendance à assimiler Léon XIII à la fin du XIXe siècle à un pape libéral. Il faut probablement inverser le point de vue. Pie XII est beaucoup plus ouvert qu'on ne le croit sur cette question, et il saura adapter l'Église à toute une série de mutations de la société moderne. Jean-Paul II poursuivra sur la lignée de Pie XII en renforçant encore les arguments de son prédécesseur. Alors deux points ici, me semble-t-il. Il y a d'abord une exigence préalable. Il faut, lorsqu'on veut s'adapter au darwinisme, lorsqu'on veut s'adapter au transformisme, lever le verrou exégétique. Je vous l'ai dit à maintes reprises, ce qui caractérise l'Église au début du siècle sur cette question spécifique de la création de l'humain, c'est son attachement à la littéralité du récit biblique. Ce que dit la Bible est vrai dans ses éléments les plus matériels. Or, l'Église va transformer ce discours en disant « Non, là, probablement, il ne faut pas envisager les choses comme ça. » Et elle le fait à travers deux encycliques, l'une de 1943 qui s'appelle « Divino afflante spiritu », une encyclique de Pie XII, et puis à travers une encyclique dont je vous ai déjà parlé, de 1950, qui s'appelle « Humani generis ». Alors, que disent ces écrits? Que disent ces deux encycliques? Essentiellement, deux choses. La première chose, c'est que il faut réhabiliter aujourd'hui la théorie des quatre sens de l'écriture. En finir donc avec l'idée d'un littéralisme. Il y a, dans les textes de Pie XII, systématiquement cette idée qu'il faut en revenir à l'exégèse d'Origène ou à l'exégèse de saint Augustin et valider cette idée qu'il y a dans la Bible plusieurs sens possibles. C'est une façon, vous le voyez, de se détacher d'une conception, d'une interprétation littéraliste du livre saint. Et puis, le second point, c'est qu'il faut désormais valider la méthode historico-critique que l'Église avait tenue en suspicion, peut-être vous en souvenez-vous, au début du XXe siècle, lorsque même le père Lagrange, fondateur de l'école de Jérusalem, s'était trouvé suspecté par les bureaux de la curie romaine. On voit bien que tout cela n'est pas sans effet sur la lecture du récit de la Genèse, sur la lecture du récit de la création. Cette façon d'envisager le corpus sacro-saint, d'envisager le livre saint, ne laisse évidemment pas indemne le récit des commencements. Pie XII a ce mot, dans Humani Generis, il est évident, et cela va bouleverser le rapport de l'Église au darwinisme, il est évident que les 11 premiers chapitres de la Genèse ne répondent en aucun cas aux règles de la composition historique. Les 11 premiers chapitres de la Genèse ne répondent en aucun cas aux règles de la composition historique. On a cru que c'était de l'histoire. Cela relève probablement d'une figuration symbolique. Ayant levé l'hypothèque exégétique, on lit maintenant le texte de manière différente. On peut s'ouvrir, nous disent les papes, à un autre regard sur le paradigme darwinien. On peut s'ouvrir au schéma transformiste, puisque la Bible ne dit en la matière rien de certain. Le tournant s'opère avec Pie XII en 1950, Humani Generis. Alors bien sûr, il résiste un peu, en disant le texte de Darwin, il n'est pas tout à fait sûr qu'il soit exact. Mais il ajoute aussitôt, c'est quand même une hypothèse qu'il faut désormais prendre très au sérieux. Une hypothèse qu'il faut prendre très au sérieux, non seulement pour les espèces animales et végétales, mais pour le corps humain lui-même. Ils admettent en 1950 que le corps dont nous sommes dotés puisse ne pas avoir été créé par un décret immédiat de Dieu, mais puisse être le résultat d'une création continue à travers les mutations successives du vivant. Jean-Paul II durcira le trait en 1996, 4 ans après qu'il eut réhabilité la figure de Galilée. Son idée est que le darwinisme n'est pas simplement une hypothèse, que le darwinisme est plus qu'une hypothèse. Le plus qu'une hypothèse signifie que, y compris pour le corps humain, et l'on retrouve ici les hétérodoxies du début du siècle qui avaient été pourtant condamnées par la papauté, que pour le corps humain lui-même, il se peut que l'histoire ait fait son œuvre, que l'histoire ait fait son œuvre à travers des mutations successives échappant au principe d'une création soudaine. Alors cette ligne va bien sûr être confirmée par le pape Benoît XVI dans une pluralité de textes. Vous allez me dire, mais quel triomphe pour Darwin. L'Église catholique aurait-elle à ce point changé? La réponse que je voudrais vous proposer dans ce dernier point, qui sera très bref, c'est que l'adhésion au paradigme darwinien que je viens de décrire ne vaut que sous condition. Sous condition que la vérité religieuse soit préservée. Soit respecté. Il y a trois façons d'établir la relation entre le discours scientifique et le discours religieux. Vous avez une première façon qui consiste à dire que le discours scientifique l'emporte très largement sur le discours religieux. Vous avez tout un courant très important en Angleterre, autour de la Secular Society, très important aussi aux États-Unis, qui vise à dire que, reprenant des thèses positivistes du XIXe siècle, que le discours religieux, c'est le discours de l'illusion, et que c'est du côté de la science qu'il faut trouver la vérité. On peut retenir ici deux noms tout à fait significatifs de ce développement. Hitchens, par exemple, ou Richard Dawkins, sont des figures centrales de cette réaffirmation de la primauté de la science sur la foi. Vous avez un deuxième discours, qui est le discours de la complémentarité des deux types de récits. Complémentarité des deux types de récits, qui est développée par quelqu'un comme Stephen Jay Gould, par exemple, qui estime qu'il ne faut pas que les magistères empiètent l'un sur l'autre. Les scientifiques ont leur propre domaine, mais ce domaine doit cohabiter avec un autre domaine, à égalité, qui est le domaine de la religion. Non-empiètement des magistères scientifiques et religieux, l'un par rapport à l'autre. Et puis, il y a une troisième hypothèse dans laquelle je continuerai à placer l'Église catholique, c'est la prééminence du discours religieux sur le discours scientifique. Il me semble que tout cela s'affirme autour d'une hiérarchisation des savoirs. L'Église nous dit, et c'est le sens de son adhésion à Darwin, que la science peut décrire le comment des choses. Elle a une fonction instrumentale. Elle nous permet de voir comment les choses fonctionnent. Mais n'y a-t-il pas quelque chose de plus grand que l'instrumental? Oui, bien sûr. Il y a le téléologique, ou le fondationnel. Ne pas nous dire simplement comment les choses fonctionnent, mais pourquoi elles fonctionnent comme elles fonctionnent. C'est cette primauté du pourquoi sur le comment qui caractérise aujourd'hui le discours de l'Église et qui l'amène à faire une délimitation des territoires entre le discours scientifique et le discours religieux. Discours scientifique est légitime, bien sûr. Mais c'est à condition, Pie XII le dit déjà, Jean-Paul II court à sa suite, de ne pas faire prévaloir ces découvertes factuelles sur les principes d'explication de l'existence affirmés par l'Église. Il faut accepter, bien sûr, les faits donnés par la science, mais ces faits ne valent, je cite ici Jean-Paul II, que s'ils sont conformes au jugement de la philosophie de l'Église et au-delà de sa théologie. On voit qu'on est dans une séparation du fait et de la valeur. Le discours scientifique peut nous apporter de nombreux enseignements sur les faits. La valeur, valeur morale, valeur d'explication ultime des phénomènes, doit d'abord reposer sur le discours catholique. J'en ai terminé en vous disant qu'il y a des principes auxquels les scientifiques ne doivent absolument pas toucher. Ces principes sont les suivants. Première idée. Ne pas toucher à l'idée de création. Les papes le répètent constamment dans leurs textes, Pie XII d'une part, Jean-Paul II d'autre part. Vous pouvez sans doute décrire l'advenue de l'humain à partir d'une série de mutations successives. Vous ne vous pouvez pas, lorsque vous êtes scientifique, remettre en doute l'idée que au principe de ces mutations, il faille trouver la présence d'un Dieu créateur. Deuxième idée que les scientifiques ne doivent pas remettre en cause, la différence entre le corps et l'esprit. On peut admettre, bien sûr, que nos corps soient le prolongement de mutations d'une série animale antérieure. L'âme relève d'un tout autre principe. L'esprit est le produit même d'une création soudaine de Dieu, qui a choisi, dans la chaîne du vivant, cette espèce-là, la nôtre, pour l'investir d'un esprit qui lui permet d'avoir une expérience esthétique, une expérience intellectuelle, une expérience métaphysique, auxquelles ne peuvent prétendre les autres espèces. Il faudrait ici prolonger. Je voudrais simplement conclure en vous disant qu'à travers cette mutation, ce sera vraiment une conclusion en deux lignes, passage d'une résistance au darwinisme, un accommodement sous condition au darwinisme, on voit bien toute la difficulté du catholicisme contemporain lorsqu'il est affronté au régime de la modernité démocratique. Au fond, on peut dire que ce qui caractérise le catholicisme, c'est une grande part d'ambivalence. Il articule à la fois un discours de vérité et un art du compromis. Par quoi l'on voit, je voudrais ici terminer par une citation d'Émile Poula, que l'Église, dans cette articulation de la vérité et du compromis, est à la fois dans le monde moderne, sans être de ce monde moderne. Elle vit dans ce monde-là, sans en vivre, en faisant comme elle peut, dans cette dualité inconfortable. Je vous remercie.
Voilà, merci pour cet exposé vraiment magistral, je crois, vraiment. Alors, on a commencé un petit peu en retard, donc on va quand même un petit peu déborder par rapport à 22 heures, donc vous avez certainement des questions, on va prendre une ou deux questions, et puis là, je crois que je demanderai à nos pasteurs de donner leurs sentiments, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de croisements, de recoupements entre ce que Philippe a pu dire ce soir et ce qu'ils peuvent dire lors de leur prédication. Voilà. Alors, une question, est-ce que quelqu'un veut ouvrir le feu? Ah, un ichtyologue du muséum.
Pas vraiment une question, mais vous féliciter sur la clarté et le déroulement de votre exposé. Au début, vous avez parlé de théorie de l'évolution, terme qui me fait horreur, théorie de l'évolution. Et ensuite, vous n'avez plus parlé de théorie de l'évolution. Vous avez parlé du darwinisme. Bon.
Est-ce que tu veux l'évolution, nous expliquer exactement ce que tu entends par là?
Parce que l'évolution est un fait scientifique reconnu, donc ça n'est plus une théorie. Voilà.
Bon. Merci. À partir du moment où
c'est un fait validé, ça n'est plus une théorie. Bon, moi je suis plutôt du partisan, vous avez parlé il y a un moment des trois positions, dont la troisième position était celle de l'Église catholique actuelle. Moi je suis plutôt de la deuxième position, c'est-à-dire de Stephen Gould, qui permet de séparer complètement le champ scientifique et le champ théologique. Je crois que ça c'est la position que la plupart des scientifiques dans mon maître, dans le buste et là-haut, se faisait le chant. C'est-à-dire qu'on peut faire de la science, on doit faire de la science, rechercher tout ce qui, est lié à l'évolution, mais ça n'a rien à voir avec la théologie. Et la pensée religieuse que l'on peut avoir par exemple.
Commentaire plus qu'une question.
Alors j'aurais peut-être l'occasion de revenir lors de la discussion, tout à fait de votre avis, et c'était à dessein en effet que j'ai utilisé les deux termes différemment, d'une part théorie de l'évolution et puis ensuite darwinisme, parce qu'à un moment donné, en effet, le darwinisme n'est plus simplement une théorie, il s'inscrit à l'intérieur d'un champ scientifique qui le reconnaît comme valide. En dépit, cependant, je précise, du fait que, à la fois du côté du catholicisme et du côté des protestantismes, il existe aujourd'hui, comme nous le savons tous ici, un certain nombre de discours qui tentent de considérer que l'évolution n'est qu'une théorie et nullement un fait.
C'est faux.
Bien sûr, oui. Et c'est pourquoi, si vous voulez, donc mais merci d'avoir relevé cela, puisque dans ma sémantique même, je faisais référence à ce que vous avez dit. Pour ce qui concerne les positions, je crois en effet, on aura probablement l'occasion d'en reparler tout à l'heure, que ce qui caractérise la doctrine de l'Église catholique en la matière n'est pas, contrairement à ce qu'on a pu dire, le principe de non-empiétement des magistères. C'est-à-dire qu'il existe toujours une supériorité du savoir théologique qui s'est en effet recomposée, comme j'ai essayé de le mettre en évidence, une concession en effet au darwinisme, incontestable, mais sur fond de supériorité de l'argument théologique sur le simple argument instrumental. La science doit s'occuper de nous dire ce qu'est le ciel, l'Église doit s'occuper de nous dire comment on va au ciel, comme le disait le cardinal Baronio. Et il y a là, évidemment, une supériorité des domaines, où on voit le spirituel l'emporter sur le matériel, qui fonde toute la supériorité du discours théologique magistériel sur le discours scientifique.
Est-ce que quelqu'un a une question ? Philippe ?
Ce que vous avez dit, je suis d'accord avec Dieu. Une chose que je relisais, je ne sais pas, au 19e siècle, quand on parle de Renan ou n'importe quoi, Einstein a dit un jour cette phrase, je crois que là, je pense qu'il était beaucoup plus dur à briser un préjugé qu'un atome.
L'Église catholique de la fin du 19e siècle, mais il faudrait voir aussi du côté, par exemple, des protestantismes et du côté de l'anglicanisme, on verra que le champ anglican de l'autre côté de la Manche, en dépit de la présence de Darwin, opposera des discours très critiques, pour une part, à l'égard de l'œuvre darwinienne. L'évêque Wilberforce entrera dans le fameux colloque d'Oxford en opposition avec Huxley, qui est le bulldog de Darwin, le défenseur des thèses de Darwin. Et Wilberforce le fera avec des arguments qu'on a croisés dans le cadre de cet exposé. C'est un évêque anglican. Il ne peut pas accepter cette idée que l'homme pourrait descendre du singe. Alors, donc ça c'est un premier point qui touche en effet toute une intelligence religieuse du monde à l'époque que l'intelligence scientifique remet en cause. Pour ce qui concerne le catholicisme, il y a une caractéristique très particulière. C'est-à-dire qu'il faut envisager le catholicisme du 19e siècle comme un catholicisme de combat, ce que je n'ai pas suffisamment mise en évidence dans le cadre de cet exposé. Il y a eu, au cours du XVIIIe siècle, ce qu'on a appelé des Lumières catholiques, avec un certain nombre de théologiens, appuyés sur des prêtres, souvent, qui essayaient de faire le lien entre le catholicisme et les Lumières. Et on aurait pu, il y a eu un concile fameux à Pistoi, en Italie, par exemple, déboucher sur un catholicisme qui, à la manière du protestantisme, aurait pu se réconcilier avec le monde. Or, le modèle du catholicisme ne va pas être celui de la réconciliation. Et on va voir, tout au long du XIXe siècle, s'affirmer contre les tendances libérales du catholicisme, un catholicisme qui est un catholicisme de combat, qu'on appelle souvent un catholicisme d'intransigeance, qui se présente lui-même, suivant le mot d'Albert Demain, comme la contre-révolution irréconciliée. L'idée que dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine économique, mais plus encore peut-être dans le domaine scientifique, il est impossible de mêler les intelligences du monde. Il y a une intelligence qui repose sur la toute-puissance de Dieu et qui trouve à s'exprimer dans le discours de la création que je viens de dire, qui ne peut être remise en cause par le discours de la toute-puissance de l'homme. Et si l'on prend les éléments que je viens de dire, les secteurs d'activité que je viens de pointer, le secteur économique, le secteur de la famille, le secteur de la science, le secteur de la politique, on voit que la grille de lecture qui convient pour lire le catholicisme de cette époque-là, c'est précisément la grille de l'intransigeance. l'Église ne peut pas se réconcilier avec le monde moderne. Du coup, tout ce qui, dans le monde moderne, remet en cause la toute-puissance de Dieu et la capacité de médiation de l'Église, c'est-à-dire sa capacité à interpréter authentiquement le message de Dieu, se trouve systématiquement placé du côté de l'hétérodoxie. Une hétérodoxie qu'il faut combattre et contre laquelle il faut mobiliser tout le peuple des chrétiens, depuis les scientifiques jusqu'aux paysans, qu'on va bientôt mettre en ordre de bataille dans le cadre des actions catholiques, par exemple. Alors, je crois que c'est comme cela qu'il faut envisager tout ce discours de l'Église, qui va parfois prendre un aspect extrêmement radical et violent, je pense en particulier au moment de cette crise moderniste, début du siècle, entre 1900 et 1915 à peu près, où l'on voit l'Église pourchasser à l'intérieur de ses rangs tous ceux qui auraient le front de vouloir réconcilier catholicisme et modernité. C'est Carl Schmitt, vous savez, ce juriste allemand qui vient de publier, dont on vient de publier, il est décédé il y a quelque temps maintenant, mais dont on vient de publier un ouvrage important autour de la vérité du catholicisme, et il démontre très bien que le catholicisme du 19e et du 20e, c'est un catholicisme qui ne supporte pas d'alternative. C'est l'expression qu'il emploie. Un catholicisme qui ne supporte pas d'alternative, la vérité est du côté du catholicisme et on n'entend pas, dans aucun des secteurs de la vie, passer compromis avec ceux qui remettraient en cause cette vérité. Marc.
Je me demandais comment est-ce que la théorie du péché originel et de la rédemption a pu évoluer alors à partir de 1950 dans l'Église catholique.
Donc là, on quitte le domaine du rapport à la science pour entrer dans le domaine de la théologie.
Oui, parce que vous disiez que c'était un point fondamental dans cette histoire de création d'Adam et de Ève, s'il n'y a pas le péché originel.
Ah oui, très bien. Alors je vais le relier en effet au discours scientifique, parce que le cardinal Ratzinger, déjà dans un certain nombre de textes des années 1970, aborde cette question. Et il va organiser un colloque à Castel Gandolfo dans le milieu des années 2000, en 2006, où il va aborder la question que vous venez de dire. Évidemment, il n'entend pas revenir sur cette idée de péché originel. Et parallèlement, il reconnaît cependant que le darwinisme est plus qu'une hypothèse. Comment articuler, en effet, les deux choses? Eh bien, il l'articule en faisant un cas à part de l'esprit de l'homme, ce qu'il appelle dans ses textes l'âme, en disant, mais bien sûr, nos corps procèdent de l'évolution de la matière ou de l'évolution du vivant. Mais à un moment donné, Dieu a distingué parmi les espèces une espèce particulière, qui est l'espèce humaine, dans laquelle il a fixé cette caractéristique irréductible qui est l'âme. Et donc, on a des interventions de Schönborn en particulier, Monseigneur Schönborn, le cardinal Schönborn, qui dit, mais justement, à partir de ce moment-là, on peut tout à fait maintenir la possibilité de la chute, puisque l'homme est conscient de sa propre existence, et qu'il va, pourvu de l'âme dont Dieu l'a doté, pouvoir refuser l'alliance que Dieu lui propose.
Donc il y aurait quand même eu un monsieur Adam et une madame Ève à un moment où l'esprit est tombé.
Oui, tout à fait.
Sur une personne individuelle.
Tout à fait. Tout à fait.
C'est sur l'esprit d'un singe, ou pas l'esprit d'un singe.
C'est sur moi, une autre espèce.
Oui, parce que si vous voulez, quand même... l'Église catholique ne dirait pas les choses comme celle-là, par le fait d'avoir distingué une espèce et de l'avoir pourvue de l'âme ou de l'esprit, Dieu a fait le partage dans les espèces. Alors évidemment, ce pourquoi j'ai insisté constamment, le corps et l'âme, le corps et l'esprit, les choses reviennent constamment dans les textes. Les deux se mêlent jusque dans les années 1950. À partir des années 1950, on fait le partage dans le discours hiérarchique entre les deux réalités. On admet tout à fait qu'on puisse, du point de vue de notre corps, être le surgeon d'une lignée vivante préexistante, mais on admet aussi que Dieu, à un moment donné, qu'on ne fixe pas d'ailleurs dans le temps, que Dieu, à un moment donné, a déterminé un groupe dans ce surgeon du vivant auquel il a transmis une âme. Et on voit donc se constituer ici, ou se reconstituer, la possibilité d'un refus de l'alliance, la possibilité du péché. Cet homme conscient, choisi par Dieu, a refusé de le suivre. Et on voit bien, si vous voulez, que le discours retombe sur ses pieds grâce à cette distinction entre l'âme ou l'esprit d'un côté et puis le corps de l'autre. Alors, ce pourquoi vous avez de très nombreux textes, de très nombreux, j'exagère, on a plusieurs textes très importants de la part de l'Église qui critiquent le matérialisme issu de la pensée épicurienne, mais surtout de la pensée du XVIIIe siècle, qu'il cite très souvent en disant « mais on a commis une très grave erreur à travers les textes de Lamétrie ou même de Diderot quand on a voulu dire que l'esprit, c'était le produit d'une évolution historique, produit d'une concrétion de la matière. Bon, il faudrait voir, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que Diderot ait dit cela, mais enfin, c'est dans les textes de l'Église que les choses apparaissent de cette manière-là. Il rappelle que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. À un moment donné, il y a eu un fiat divin qui a choisi dans la lignée du vivant une espèce particulière. Cette espèce particulière a trahi la confiance que Dieu avait mise en elle, et à partir de ce moment-là, le discours traditionnel demeure.
J'aime peut-être une question pour conclure. Ou une réaction.
Ma question est toute simple, c'est pour vous, le terme évolutionnisme et le terme transformisme sont des tout à fait équivalents, ou distinguez-vous? Ma réaction, c'est de dire, la situation finale que vous posez, c'est-à-dire à la science, le comment, et la théologie, le pourquoi, me semble relever une vraie frilosité de théologie, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si on arrivait quand même à préserver une sorte de frais carré en disant « ça au moins, vous ne nous touchez pas. Ça au moins, ça reste de l'ordre théologique. Laissez-nous dire le sens des choses. » Il me semble qu'aujourd'hui, le protestantisme libéral, en tout cas, a passé un cap, c'est de dire « la science, et de façon générale, l'expérimentation, c'est ce qui remet aussi en cause la théologie. » C'est-à-dire les images de Dieu, les doctrines ou les dogmes, non pas pour les vider de leur substance, mais pour permettre à la théologie de les reformuler en essayant de faire un pas de plus vers une vérité que l'on peut partager entre scientifiques, entre théologiens et entre personnes ordinaires. Le problème, me semble-t-il, dans certains courants théologiques, c'est d'être figé sur des images divines assez médiévale, et de se dire si on retire un élément, c'est l'ensemble du château qui tombe. Je parlais de l'omnipotence, de l'omniscience, a fortiori la question du péché originel. Voilà, dès que tout est censé se tenir, si on retire un élément, tout s'effondre. Alors que, il me semble au contraire que ce dialogue très critique que nous avons les uns avec les autres est très fructueux, en fait, très fécond.
Alors pour la question relevant de l'évolutionnisme et du transformisme, j'ai employé les termes indifféremment parce que l'Église les emploie indifféremment. Mais il faudrait se tourner vers les spécialistes. Il existe en effet des différences possibles entre ces deux sens, sachant cependant que ce sont des termes qui, au sein même du champ scientifique, peuvent être l'objet d'appropriations différenciées. Pour ce qui concerne l'Église, évolutionnisme et transformisme sont toujours dans les textes employés comme des synonymes. Première remarque. La seconde remarque, et je vais être très bref et conclure sur quelque chose que je crois essentiel et que peut-être je n'ai pas dit suffisamment. C'est que, première idée, l'Église dirait la même chose que ce que vous avez dit, l'Église catholique. Elle dirait que le discours théologique se nourrit des apports du discours scientifique. Le concordisme initial, celui de la fin du 19e, début 20e, dit « on ne peut pas accepter de discours scientifique qui serait contraire au discours religieux. » Aujourd'hui, plusieurs textes sur la question. Le pape Benoît XVI, précédé par Jean-Paul II, dit « On ne peut pas accepter de discours religieux qui seraient, par les faits qu'ils énoncent, contraires au discours scientifique. » Il y a donc l'acceptation d'une subordination des énoncés scientifiques, des énoncés religieux au discours scientifique sur le plan strictement factuel. Première remarque. La seconde remarque, cependant, et là vous avez tout à fait raison, il est des points que le discours scientifique ne peut pas toucher. La question métaphysique de l'origine et du devenir de l'homme. C'est un point sur lequel l'Église ne peut pas être compétente. Sur lequel le scientifique ne peut pas être compétent. Troisième élément, et c'est peut-être l'élément essentiel qui va faire toute la distinction entre notre assemblée ici et puis l'assemblée catholique. Le problème, c'est de savoir qui détermine le sens ultime des choses. Et vous voyez qu'apparaît ici une figure qu'on ne trouverait pas de même nature dans le cadre du protestantisme, c'est la figure du magistère. J'étais pour un exposé tout à fait différent sur des questions d'ordre politique l'autre jour invité par les pères dominicains du Saulchoir, et nous avons conclu sur cette question une nouvelle fois. À propos du politique, qu'est-ce qui peut déterminer que la loi positive doit être subordonnée à la loi naturelle, à la loi morale, à la loi divine? Qui détermine ce qu'est la loi divine? Qui détermine ce qu'est la loi morale? Ce n'est sûrement pas la délibération des individus. Il y a une puissance qui est en relation immédiate avec Dieu, qui a été instituée par Dieu même, qui est la puissance magistérielle, qui dit la vérité des choses. On le trouve dans l'ordre politique, on le trouve de même dans le catholicisme, dans l'ordre scientifique. Et on voit bien que c'est autour de ce noyau-là, la relation entre savoir et magistère, que s'exprime probablement, sur ce terrain de la science comme sur le terrain du politique, la singularité du catholicisme par rapport au protestantisme.
Merci.